Découvre personnellement comment la parole de Dieu peut effectuer un changement dans ta vie à travers le ministère de l'évêque Dagiwal Mills. Dagiwal Mills est le fondateur de Lighthouse Chapel International, une dénomination de plus de 2000 branches à travers le monde. Il est un évangéliste qui guérit et un auteur de plusieurs livres à grand succès. Il est aussi le pasteur de l'église Premier Amour, un ministère de campus avec plus de 200 branches. L'église de Premier Amour est une église vibrante avec des gens jeunes et énergétiques, remplis du premier amour pour le Seigneur. Maintenant, écoutons Dagiwal Mills.
As we welcome to the stage our father the prophet, Bishop Dag. I can hear you. We are at the prophetic encounter with Bishop Dag. He was there. First of church, I can hear you.
Combien de personnes s'attendent à un miracle? Je m'attends à un miracle? Un miracle aujourd'hui. Père, nous te rendons grâce pour aujourd'hui, pour la bénédiction répandue sur nous. Nous sommes reconnaissants. Merci. Merci. Ceci est si spécial d'être dans ta présence et d'être appelé des croyants pour marcher avec toi. Dirige-nous puissamment dans l'onction du Saint-Esprit. Merci pour ta puissance bénie qui est sur chaque vie aujourd'hui. Au nom de Jésus, nous avons prié. Maintenant, à tout le monde, remerciez l'Éternel parce que votre vie a changé d'une manière permanente à travers le culte d'aujourd'hui. Ça marque un point de tournant aujourd'hui dans votre vie. Merci. Merci. Merci au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Tout le monde dit Amen. Asseyez-vous maintenant. Maintenant, aujourd'hui, Dieu est en train de changer ta vie d'une manière permanente. Amen. La voix douce de Dieu est très importante. En Psaume chapitre 105, la Bible dit qu'il a envoyé un homme devant eux. C'est Joseph qui était vendu pour être esclave et on lui serra les pieds dans les ceps, son âme entra dans les fers jusqu'au temps où arriva ce qu'il avait dit, la parole de l'Éternel. Donc, une certaine parole a une certaine grande puissance pour changer ta vie entière. Vous savez, donc étant ici aujourd'hui, tu dois t'attendre à ce qu'une parole, qui peut tout changer, vienne vers toi aujourd'hui. jusqu'à ce que sa parole est arrivée et la parole de l'Éternel l'éprouva, ou l'appel de l'Éternel. Il y a une parole qui t'éprouve et il y a la parole qui, quand cette parole vient, ça mène à un changement dans ta vie. Et vous avez entendu les jeunes hommes qui ont témoigné, vous voyez qu'ils étaient en captivité. Leurs pieds étaient serrés dans les cèpes, les fers, comme le jeune homme de l'Ouganda, Entebbe. Je suis sûr que vous avez entendu parler de l'incursion des Entebbe quand l'armée juive est allée à Ouganda pour sauver. Et le frère de Netanyahu était tué. C'était le seul qui était tué pendant cette incursion. Et dans cette ville appelée Entebbe, nous avons notre église là-bas avec notre propre projet de construction. Une grande cathédrale. Est-ce que vous êtes content de cela? Que quelqu'un peut être sauvé en Entebbe? Il voit le feu. Quand il verse l'alcool, il voit encore le plus de feu. Mais dans ce lieu, nous avons une église et les gens sont sauvés et ils viennent à l'école biblique. Dieu merci pour l'école biblique à Nakazo. Amen. Donc jusqu'à ce que sa parole est arrivée, la Bible dit que la parole de Daniel l'éprouvait. Donc tout le monde sera éprouvé par la parole. Quand quelqu'un te dit viens ou bien attendre, c'est ça. Et c'est ça qui est la parole qui vient. Comme L.P. Vivaldi a dit, je ne me souviens pas, mais elle dit que j'avais demandé où est la fille qui a chanté le matin. C'était la parole. Et à partir de ce jour-là, elle voyage avec moi partout dans le monde, chantant pour moi pendant les campagnes. Donc, toi aussi, ta parole vient aujourd'hui au nom de Jésus. Alléluia. Quelle bénédiction. Maintenant, aujourd'hui, je suis venu encore avec un message important sur la foi. Oui. Maintenant, la foi est très importante. Regardons Hébreux 11. Je parle de la prophétie de la foi. La prophétie de la foi, ce que la foi prédit qu'elle peut faire pour toi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Donc, quand tu entends quelque chose davantage, le plus, tu vas voir, tu vas expérimenter des choses en Dieu. Parce que de plus que tu entends, de plus que tu crois. Hébreux 11, verset 1, la Bible dit, « Or, la foi est l'assurance des choses qu'on espère et la conviction des choses, et celles qu'on ne voit pas, car c'est par elles que les anciens ont reçu témoignage. » Mais quand on descend jusqu'à Hébreux 11, quand nous regardons au verset 24, par la foi, Moïse, étant né, fut caché 3 mois par ses parents, ça c'est 23, parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Et verset 24, la Bible dit, par la foi, étant devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, et choisissant plutôt d'être dans l'affliction avec le peuple de Dieu que jouir pour un temps de délices du péché, estima l'opprobre de Christ un plus grand trésor que les richesses de l'Égypte. La Bible dit, par la foi, il quitta l'Égypte, ne craignant pas la colère du roi. Donc, par la foi, tu peux quitter les grandes villes, les places importantes. tu quittes ces endroits et tu dis, je suis Dieu. Et tu vas accomplir de grandes choses. Voici la manière d'être un missionnaire, par la foi. J'avais un jeune homme ici, il était avec nous ici, depuis que nous étions à l'autre côté du campus. Et je lui ai dit d'aller être missionnaire en Mozambique et il est là maintenant. Par la foi, il a quitté Accra, le Ghana. Il est au nom de Mozambique. Tété, où est César? Tété, oui. Il est en train de construire une église là-bas. Par la foi, tu peux quitter l'Égypte. Donc, nous n'avons pas de missionnaires parce que nous n'avons pas de foi. Et sans la foi, on ne peut pas t'envoyer quelque part. On peut seulement prêcher sur l'argent. Et comment avoir beaucoup d'argent. Donc, par la foi, la Bible dit qu'il a fait la Pâque et l'aspersion du sang. Toutes ces choses qui semblent drôles, il les a fait. Asperger le sang partout dans la maison. Aujourd'hui, nous chantons du sang de Jésus. Ça semble normal, mais il fallait la foi pour faire ces choses à cette époque. Mais j'aimerais qu'on regarde verset 29 parce que cela contient quelque chose qui est si critique pour chaque chrétien à voir et comprendre. La Bible dit, par la foi, ils traversèrent la mer Rouge comme une terre sèche. Ce que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutir. Dans chaque expérience, pour les étudiants de la science, ils vont bien comprendre, mais je vais expliquer ça aux étudiants en lettres. Quand nous faisons des expériences, nous avons quelque chose qu'on appelle la contrôle. Et même quand il s'agit des médicaments, nous avons ce qu'on appelle le placebo. On donne le médicament à un groupe de personnes et puis on donne aux autres personnes quelque chose qui semble au médicament. Mais ce sont des poudres. Mais ce n'est pas le médicament en tant que tel. C'est peut-être vitamine C ou bien il n'y a rien dedans, placebo. Et maintenant, on examine les deux pour voir ceux qui ont pris le placebo, ce qui s'est passé, et ceux qui ont pris de médicaments, ce qui s'est passé. Voici comment on fait le test des médicaments. La test. Donc, il y a une différence entre celui qui a master en lettres et master en sciences. Celui qui a eu le master en sciences, lui, il fait ces choses avec des méthodes scientifiques. Donc, il fait des tests, des expériences. Il a des données pour montrer. C'est pourquoi les données nous montrent que notre leadership, quelque chose ne va pas avec notre leadership. Quelque chose ne va pas avec notre manière de faire des choses. Donc, les données nous montrent. Et il ne s'agit pas seulement du sentiment. Donc, les Égyptiens sont la contrôle de cette expérience. Essayons de marcher dans la mer Rouge. Voici les Israélites, ils ont utilisé la foi. Essayons de traverser la mer Rouge. Et là, nous voyons la différence entre quelqu'un qui a la foi et quelqu'un d'autre qui n'a pas de foi à travers cette expérience. Donc, maintenant, tu vois que les étudiants en lettres aussi devient des scientifiques parce que vous voyez une expérience dans la Bible. Ça, c'est la contrôle. Ce que tu peux faire quand tu n'as pas de foi et ce que tu peux faire quand tu as de foi. Oui. Et quand on essaye les mêmes choses que quelqu'un qui a la foi essaie de faire et quelqu'un qui n'a pas de foi qui essaye, on voit une grande différence. C'est pourquoi je dis, quand nous sommes en train de prendre des offrandes, il ne faut pas avoir pitié de l'Église. Comme si, oh, l'Église a besoin de l'argent. Non, 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 l'Église n'a pas besoin de votre argent. Vous allez croître un jour pour savoir. Il y a des années, l'Éternel m'avait dit que l'Église sera toujours riche plus que toi. Parce que l'Église est un multi-géant. Nous sommes des petites dans l'Église. L'Église est un grand organisme. Si l'Église n'est pas un propriétaire de quelqu'un, par exemple, notre église, ce n'est pas mon propriété ni mes enfants. L'église ne m'appartient pas. Donc, l'Église est puissante. Amen. Donc, quand tu donnes, ne pense pas que... Oh, pauvre Église. Je vais ajouter encore 5 à 6, 10 pour aider l'Église. S'il te plaît, je veux t'informer que l'Église a plus d'argent que tu peux savoir. Et cette Église n'est pas aussi endettée par la grâce de Dieu. D'accord? Donc, à part cela, nous ne devons à personne. Nous ne devons pas ni à une banque, ni à quelqu'un d'autre. Donc, il ne faut pas avoir pitié d'un homme de Dieu ou bien l'Église. Si, peut-être si tu viens donner une offrande. Parce que, par exemple, moi, j'ai plus que vous avez. Donc, il ne faut jamais donner en pensant que tu es en train de résoudre un problème financier du pasteur ou bien tu es en train de... Tu veux avoir... Tu as pitié du pasteur. Je n'ai jamais... Je ne me suis jamais... Me comporter comme cela. Si tu crois que tu dois m'honorer, il faut faire. Donc fais ce que tu fais par la foi. Parce que si tu donnes l'argent sans la foi, la Bible nous montre que par la foi, certaines personnes ont essayé de traverser la mer Rouge et ça a marché. Et ceux qui n'avaient pas de foi aussi ont essayé de faire la même chose et ça n'a pas marché. Au même jour. Ah! C'est ça. Par la foi, ils ont traversé la mer Rouge comme une terre sèche. Est-ce que tu peux rabaisser le piano? On veut voir. Et la Bible dit que les Égyptiens ayant essayé, ils furent engloutis. Et ce que les Égyptiens ayant essayé furent engloutis. Donc, la foi est une très grande chose à avoir et la foi vient de ce qu'on entend. J'aimerais que vous saisissiez cela. La foi n'est pas « oh, je pense que » ou bien « je veux ». Non. La foi, c'est l'obéissance. La foi, c'est l'obéissance et l'obéissance, c'est la foi. Et la foi, c'est agir sur les choses dont tu crois. Tu fais des choses parce que tu le crois. Je crois en cela, c'est pourquoi je fais ceci. C'est pourquoi la prière est une très grande axe de foi parce que Dieu est comme un homme, un ami qui n'est pas amical, à qui tu parles, mais il ne dit pas oui ou ok, ou bien je vois, ou je comprends. Il ne dit rien. Est-ce que tu peux imaginer cela? Moi, je ne suis pas le flow avec les gens qui donnent des réponses staccato. Vous connaissez staccato? Staccato en musique, c'est quand quelqu'un joue la musique. Non. Staccato, c'est tom, 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 tom. Ça, c'est staccato. Tom, 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 tom. Ça, c'est staccato. Et puis, quand ce n'est pas staccato, la chanson sur le flow, pa-na-na-na-na. Quand c'est staccato, on entend pom, 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 pom. OK? Tu ne peux pas converser avec quelqu'un qui a des réponses staccato. Oh, comment ça va? Oui. Oh, allô, je pensais que tu le... Oh, je vois. Et puis, il te donne un signe avec la main, la pouce.
By now, we should have left God altogether because...
Normalement, on allait laisser Dieu depuis longtemps parce que Dieu ne donne même pas une réponse staccato. Quand tu finis de prier, tu dois croire qu'il y a un Dieu au ciel qui a entendu tout ce que tu viens de dire. C'est ça la foi. C'est pourquoi la prière est l'une des actes de foi. Quand tu vois un homme de prière, tu es en train de voir un homme de foi. Donc, mes amis, la foi est une très grande chose. Quand tu vois quelqu'un qui a de la foi, oui. Et tu vois que dans le gouvernement, ils n'ont pas d'éducation, ils n'ont rien, mais ils ont la foi. Et tu vois que le gouvernement est forcé à relater avec ces personnes parce qu'ils ont quelque chose d'intangible. Tu ne peux pas dire exactement ce qu'ils ont. C'est pourquoi il y a trop de combats sur les prophéties. Pourquoi tu dois prophétiser que nous n'allons pas gagner les élections? Pourquoi tu prophétises que je vais mourir? Et ainsi de suite. Parce qu'ils savent qu'il y a une certaine force à l'œuvre. Donc la foi, c'est quelque chose qu'on doit développer. Écoutez, il ne faut même pas... La foi est comme l'humilité et l'orgueil. C'est invisible. Ça vient sur toi quand tu écoutes, quand tu entends. Petit à petit, tu deviens un homme de foi sans savoir. Un jour, quelqu'un m'a appelé, la personne m'a dit, « Oh, tu es un grand homme de foi. » Et j'ai ri parce que je ne ressens pas la foi, je ne ressens pas plein de foi. Même quand je regarde ma vie, la Bible dit, « Le juste vivra par sa foi. » Quand je regarde à ma vie, quand je regarde à ce que je fais et ce que j'ai déjà fait, je me rends compte que presque tout ce que j'ai fait est basé sur une croyance que j'ai. Donc, je vis par la foi, pleinement. J'écris les livres à cause d'une vision que j'ai eue, que Dieu m'a donnée. Et il m'a dit d'écrire, et je crois que cette chose-là que j'ai entendue, vous allez penser que c'est une pensée, mais moi, je crois que c'est la voix de Dieu. Et j'ai eu une vision. Et vous allez penser que j'ai des hallucinations, mais ce n'est pas les hallucinations, mais j'ai des visions. Et j'ai eu une vision pour prier pour les gens pendant des croisades. Et c'est pourquoi je prie pour les gens pendant des croisades. Donc les choses que je fais, je les fais à cause de mes croyances. Un jour, j'ai donné une voiture à quelqu'un. Par la grâce de Dieu, j'ai donné beaucoup de voitures comme des semences. Ce n'est pas quelque chose même que je regarde aujourd'hui, mais ça m'est arrivé que je n'avais jamais semé une telle semence et que c'était une bonne chose à semer des semences comme ça. Ça va me donner des récoltes. Récemment, Dieu m'a mis au cœur d'aider quelqu'un à construire son église, mais la personne n'est pas de notre église. Et quelqu'un a demandé, pourquoi tu peux faire ça, donner beaucoup comme ça à cette personne? Et je me suis dit, c'est une semence, c'est bon de semer. Parce que quand nous aidons quelqu'un pour avoir son bâtiment, nous aurons des milliers. C'est une croyance. Ce n'est pas à cause des besoins, ce n'est pas aussi pour la personne, mais c'est pour Dieu. On fait ça vers Dieu. Si tu construis maison pour Dieu, Dieu aussi va construire maison pour toi. Si tu le crois, tu vas voir ça s'accomplir dans ta vie. Donc dans cette saison, tu vas devenir un homme de foi. Et les autres vont essayer de faire ce que tu fais, mais ça ne va pas marcher. Oui. Maintenant, Hébreux 11, 32, aujourd'hui j'ai seulement 3 points. Que dirais-je? Car le temps me manquera si je discours de Gédéon. De Barak et de Samson. De Jephthé et de David et de Samuel et des prophètes. Le temps me manquera si je discours de Gédéon. Donc, le temps ne le permettait pas de dire, mais aujourd'hui, le temps me permet de vous dire. Donc, j'aimerais vous parler de Gédéon en Juges chapitre 7. Et Jérubal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure. Et vous voyez, Dieu a appelé cet homme Gédéon. Il était un homme normal et faible, juste comme nous. Et il a décidé d'obéir à Dieu. Regardons ceci. Et Jérubal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure et tout le peuple qui était avec lui, et ils campèrent près de la source de Harod. Et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Moré, de la vallée. Vous êtes avec moi, verset 2. Juges 7, verset 2. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant ma main m'a sauvé. Amen. Les gens sont trop nombreux. Vous voyez? Il faut la foi pour croire que tu as trop de personnes. Si j'ai dit que le peuple est trop nombreux, tu vas dire, mais ça c'est bon, avec beaucoup de personnes, avec toi. Mais Dieu a dit, le peuple est trop nombreux. Je ne veux pas toutes ces personnes avec toi. Verset 3. Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Une annonce simple. Je veux que quelqu'un calcule cela. Si tu ne peux pas calculer, il faut faire sortir ta calculatrice et faire le calcul. 22 personnes, ça reste 22 000 personnes, ça reste 10 000. Donc, c'est 32 000. Donc, c'est 22 000 sur 32 000 fois 100 sont des personnes qui ont peur dans la congrégation. Il faut calculer, ça fait 68,75% qui est approximativement 70%. Et c'était ça la majorité. La majorité était forte. Et on peut changer de la constitution avec ce nombre. Les gens peureux, 70%. Donc, la peur est une chose très forte. C'est un mauvais esprit. Et la Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance. Donc, ça veut dire que 70% avaient un esprit mauvais. Ça fait peur, n'est-ce pas? Et Dieu dit, je ne veux pas ces gens-là. Je ne veux pas ces gens dans mon équipe. Wow! Donc, à partir d'aujourd'hui, vous êtes libre des gens peureux. Hey, si tu es avec quelqu'un qui a peur, tout ce que tu suggères, il va dire, hey, tu sais, et pourquoi pas faire ça? Voici la raison pour laquelle beaucoup de personnes ne partent en mission. Voici la raison pour laquelle les gens ne veulent pas être envoyés. Vous êtes sûr, est-ce que nous sommes en sécurité? Et soyons un peu, faisons un peu attention. Mais tu vois, parce que la personne veut la sécurité, mais c'est l'esprit de foi. Est-ce que tu es sûr? Tu peux passer ton examen? Tu peux aller à l'église? Il faut écouter les enfants. Les histoires des gens. Nous sommes des hypocrites. Tu me demandes ce qu'ils font au campus là-bas. Il faut aller là-bas toi-même pour aller voir. Tu penses que les gens bossent depuis matin au soir? Il y a des gens qui partent en classe seulement le jeudi, le vendredi. Certaines personnes n'ont jamais mis pied en classe pour 3 ans. Ils sont aux années finales, dans l'année finale. Oui, il y a certains ici, vous connaissez. Ils écrivent seulement les examens et puis les tests, c'est fini. Ils ne entrent pas en classe. Parce qu'il y a 1500 étudiants dans une classe. Si tu assistes à la classe, même tu ne peux pas même entendre ce que le prof dit. C'est comme une convention. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que nous sommes en sécurité? Laissez-moi te dire quelque chose. Si tu es parent et puis ton enfant a trouvé Dieu, et tu commences à restreindre ton enfant qui a trouvé Dieu, Tu dois savoir que Satan est en train de t'utiliser en tant que parent. Oui. Ton enfant a trouvé Dieu. Regarde les options. Quand les gens commencent à témoigner, je m'assois et je me demande, ah, ces gens viennent d'où? Ce sont les gens ordinaires que nous connaissons. Quand l'équipe de nos frères de Londres, de l'université de Nottingham, l'université de Birmingham, était venue raconter ce qu'ils ont fait, on avait l'envie même de tomber de nos chaises. Maintenant, nous avons entendu parler de quelqu'un de Ouganda et différentes histoires. Donc, quand Dieu est en train de prendre ton enfant, arrêter ton enfant, tu dois être comme la maman de Samuel qui avait fait une petite veste pour son petit, qui a dit, et voici une petite veste, je te donne pour soutenir l'œuvre de Dieu. Tu penses que tu es en train d'administrer un conseil, mais tu es en train de suivre un esprit de la peur. Et Dieu dit, je n'ai pas besoin de ces personnes. 70% de peuple, je n'ai pas besoin d'eux. Je n'ai pas besoin d'eux. Verset 4. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Seigneur, tu as chassé la plupart des personnes de ma vie. Et il dit, je ne peux pas comprendre. Il y a trop de personnes. Il a dit, fais-les descendre vers l'eau et là, je te les épurerai. Et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-là ira avec toi, celui-là ira avec toi. Et chacun. Ok. Donc, il fit descendre vers le peuple et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lapera l'eau avec sa langue comme lappe le chien, tu le mettras à part et aussi tout ce qui se courbe sur leurs genoux pour boire et le nombre de ceux qui lapèrent dans leurs mains en la portant à la bouche furent 300 hommes et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Verset 7. Et l'Éternel dit, retournons au verset 6. La Bible dit, et le nombre de ceux qui lapèrent dans leurs mains en lapant, en portant à leur bouche, il y avait des gens qui buvaient comme ça et les autres comme ça. Donc vous voyez, il y a 300 hommes qui étaient alertes. Ils ont mis l'eau à leur bouche. Mais il y a certaines personnes, quand ils voient un peu de repos, ils mettent toute la tête dedans, ils oublient tous à cause d'un peu d'eau qu'ils voient. Ils oublient un petit mariage que tu viens d'entrer, tu as tout oublié. Une petite prospérité que Dieu vient te donner, tu es rentré dedans. Hey. Mais il y a des gens qui lapent un peu, qui lapent un peu de prospérité et puis aussi ils sont alertes. C'est seules 300 personnes qui ont décidé de ne pas se laisser être vaincues par la prospérité. Le reste, hey. Je suis sûr qu'il y a certaines personnes qui avaient commencé à nager dans la mer, dans l'eau.
Hallelujah.
Hallelujah.
So God said, you know,
donc Dieu dit, vous savez quelque chose?
I don't need all these people.
Je n'ai pas besoin de toutes ces personnes qui sont trop impressionnées. Une petite source d'eau que je viens de donner, l'eau est devenue la chose principale, ils ne sont plus alertes. Verset 7. Et l'Éternel dit, par les 300 hommes qui ont lapé l'eau, je vous sauverai et je livrerai ma vie en ta main, mais que tout le peuple s'en aille, chacun en son lieu. Ça veut dire 10 000 moins 300, ça fait 9 900 personnes n'ont qu'à aller à la maison. Est-ce que ce n'est pas étonnant? Verset 8. Et les 300 hommes prirent en leurs mains les vivres du peuple et ses trompettes. Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun sa tente, il retire. Et il arriva à cette nuit-là que l'Éternel lui dit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré en ta main. Et si tu crains, donc il est descendu vers le camp et il pura, il a détruit le camp de Madian ce jour-là. » Alléluia. Maintenant, la grande leçon à apprendre à Hébreux 11, 32. Il dit, et que dirais-je davantage, car le temps me manquera si je discours de Gédéon. Gédéon était un grand homme de foi et l'acte de foi, c'était de faire confiance en Dieu. Que même si tu n'es pas avec la majorité, tu peux réussir quand même. Vous savez, il y a des années, quand nous avions commencé l'église, l'Éternel m'avait parlé et il m'avait dit de chasser quelqu'un qui était la source de tous mes critiques. Il me critiquait tout le temps. Moi, je venais de commencer à apprendre comment prêcher. Et il parlait tout le temps de moi. Il disait que je ne savais pas comment prêcher. Je ne prêche pas comme ça. Je ne suis pas appelé. Je ne suis pas un. Donc, l'Éternel m'a dit, il faut chasser le moqueur. Et toute contention, querelle, cesseront. Laisse-le partir. Et je savais que ce type-là, s'il quitte, il était le type qui était toujours amical. Et moi, je n'étais pas si amical. Mais ce n'est pas comme ça. J'étais très sérieux. J'étais moi-même. Oui. Est-ce que je suis quelqu'un qui n'est pas amical? Il était plus gentil que moi. Oui. Quiconque le connaissait, tout le monde était son ami. Et je me suis dit, si je lui dis d'aller, beaucoup de choses vont se passer. Beaucoup vont le suivre. Mais vous voyez, pour avoir la foi, ça veut dire d'obéir à Dieu. La foi, ça veut dire d'obéir à Dieu. Et obéir à Dieu, ça veut dire la foi. Donc, j'ai eu une réunion. J'ai appelé tous les leaders et j'ai dit, il faut venir. Ils se sont assis au sol et j'ai dit, il faut quitter l'église. Il a dit, pourquoi? Et j'ai dit, je ne peux pas te dire pourquoi, mais tu me critiques tout le temps, donc il faut aller. Il a dit, oh, ce n'est pas un problème, je peux rester à l'église, je vais faire les annonces. Et j'ai dit, non, je ne te veux plus dans l'église, il faut sortir de l'église. Donc il est allé et le dimanche prochain, il était là en train de me critiquer. Et il est sorti de l'église et tout le peuple, tous les gens qui le suivaient, ses amis, et ils étaient partis tous avec leur langue. Et j'étais resté avec peu de personnes. Nous étions si peu. Mais ça, c'était Gédéon avec ses 300. N'aie pas peur d'être avec le peu. La plupart de nos politiciens n'arrivent pas à réussir parce qu'ils ont peur d'être peu. C'est comme si quand tu dis ce qui est vrai, les gens ne vont pas te soutenir. Les gens ne vont pas te suivre. Tu n'auras pas de vote. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a de confusion. Nous sommes en train de construire la plus grande bidonville se trouvait au Kenya. Mais maintenant, le Ghana est en train de dépasser. Partout dans la ville d'Accra, nous voyons des bidonvilles. Parce que les gens pensent que si tu fais ce qui est bon, ce qui est droit, tu vas perdre la renommée. Mais je ne veux pas vous dire le nom de cet homme-là, mais probablement il est un politicien très renommé. Mais lui, il s'en fout de ce que les gens pensent. Et en disant ce qu'il pense et ce qu'il croit que c'est la vérité, il est devenu plus renommé. Mais il y a aussi des gens dans la politique qui sont des peureux, sont faibles. Ils n'arrivent pas à se tenir pour la vérité. Ils sont dans le jeu de ce groupe me soutient, ce groupe ne me soutient pas, ce groupe ne... C'est pourquoi le pays est devenu comme un bateau sur l'eau, sans un moteur particulier. Mais la mer elle-même en train de pousser les choses comme elle veut. Le pays est comme un bateau sans moteur. Parce que si tu es sur la mer va t'amener, il y a les courants qui peuvent amener le bateau très profond. Quand tu es en haut de la mer, il y a des courants qui passent en dessous de la mer. Je ne sais pas comment les courants sont créés, mais ça peut t'amener dans n'importe quelle direction. Donc si tu veux être un leader spirituel ou bien un géant spirituel, tu dois apprendre à ne pas suivre qui m'aime, qui ne m'aime pas. Beaucoup de personnes sont en train de dire, et puis maintenant tu as la confiance, l'assurance. Si tu veux te marier à quelqu'un, tout dépend de ce que les gens disent. Écoutez, avoir beaucoup de personnes recommander que « Oh, celle-là, elle est bonne » ou bien « Celui-là, il est bon », ce n'est pas comme ça dans la vraie vie. Oui. Et il ne faut pas être trompé quand les gens viennent faire des commentaires. Tout le monde est forcé de dire des bonnes choses, surtout en public. Ça, c'est protocole standard. Coûte que coûte, il y a quelque chose à dire. Il faut quelque chose de bon à dire. Même Hitler avait de bonnes parties de sa vie. Si Adolf Hitler est mort en 1939, on allait le considérer l'un des leaders plus grands sur la Terre parce qu'il avait transformé l'allemand totalement. À partir du jour où il était venu au pouvoir en 1933 ou 1939, l'Allemagne était transformée. C'était un pays où les gens utilisaient une brouette pleine de pièces pour acheter une miche de pain. Mais Hitler a converti, transformé le pays à un pays solide de prospérité. Aujourd'hui, ils ont une autoroute appelée Autobahn et même la voiture qu'il a inventée, VW, et beaucoup de choses aussi. Donc, il y a de bonnes choses dans tout le monde. Je suis en train de dire que il ne faut pas devenir quelqu'un qui dit « Ok, si tout le monde part en mission, moi aussi je pars en mission. Si tout le monde assiste au programme, moi aussi je vais aller. Si tout le monde va aller évangéliser, moi aussi je vais aller. » Tu n'es pas un homme de foi. Gideon, il ne regardait pas qui va et qui ne va pas. Parce que beaucoup de personnes ne vont pas faire ce qui est droit. Donc, il ne s'agit pas de tout le monde en train de faire. Donc, moi aussi, je vais faire. Il y aura toujours un temps, tu dois te tenir pour ce en quoi tu crois. Si tu fais partie de cette église, tu vas voir qu'un jour, le groupe avec lequel tu étais venu ne sera pas là. Et tu dois dire que et moi et ma famille, nous allons servir l'Éternel. Je m'en fous de ce que vous pensez. Il ne s'agit pas de groupe. Il faut bien regarder tes camarades de classe, tes collègues. À un point, tu dois voir que pour être un homme de foi, ça veut dire que même si 22 000 personnes ne seraient pas avec moi, pas de problème. Faisons 22 000 sous 32 000 fois 100. C'est combien? 0,09 est différent de 0,9. Josué, est-ce que tu es un étudiant de lettres, non? Il faut bien calculer. Trop. Il faut bien calculer. Ça fait combien? 0,09 fois 100. Donc, c'est 0,9. 3. Et donc, pour l'étudiant en lettres, c'est 1%. 1% de peuple va te suivre pour dire oui. Si seuls 1% sont vierges, est vierge, il faut dire que, ok, on va te dire que tu es un insensé d'être vierge, mais il faut dire, je fais partie de 1%, je le ferai. Si tu fais partie de 1% qui prie, fais partie. Tu ne peux pas regarder les gens pour voir si tu vas prier ou pas. Ok, les gens ne prient pas. Ok, d'accord. Ah, moi je ne pars pas à la veillée. Est-ce que tu vas aller? Quand tu entends cette question, Je ne pars pas. Est-ce que tu pars? Satan est en train de te parler. Oui. Un homme de foi n'est pas un homme de peuple. Qu'est-ce que les gens veulent quand je prêche? Les gens se moquent de moi quand je prêchais de loyauté. Ils se sont moqués de moi. Beaucoup de pasteurs sont venus confesser comme la moquerie, comment ils se moquaient de moi quand je prêchais sur la loyauté et la fidélité. Ils se sont dit, ils ont dit, mais ce n'est pas quelque chose qu'on enseigne. Mais après, ils ont vu la vérité. Moi, j'aime prêcher sur le salut. Je fais des campagnes. Il ne s'agit pas de qui fait et qui ne fait pas. Il ne s'agit pas que tout le monde fasse les croisades. Moi, je dépense beaucoup d'argent pour évangéliser. Beaucoup d'argent. Peut-être les gens ne pensent pas que c'est la bonne chose à faire, mais moi, je le fais. Je construis les églises. Plus. C'est ce que je crois. Il n'y a rien comme si, ok, nous sommes 77, 78 membres de Dieu qui sont en train de faire la même chose. Non. Il y a certains endroits où nous sommes allés, ils ont dit, la dernière fois, il y avait une croisade, c'était 36 ans. Quand on était en Harare, vous avez entendu cela, non? Ça fait 36 ans que Bonke était venu faire croisade. Donc, tous les gens qui ont 40 ans, ils n'ont jamais vu de campagne dans leur vie. Tu n'étais pas là, en Harare. Pour être un homme de foi, tu ne dois pas regarder, voir qui me soutient, qui ne me soutient pas, qui est d'accord. Oui, c'est pourquoi les politiques sont différentes de la foi. Parce que pour moi, si je veux faire quelque chose, je vais dire, vous savez, nous commençons d'ici. Voici comment je construis. Je dis souvent, nous commençons maintenant. Quand j'ai conduisais la Kodesh, j'ai dit, nous allons construire. J'étais là le samedi, c'était un magasin. J'ai regardé les architectes, les ingénieurs. Ils étaient tous là et j'ai dit, le lundi, je vais commencer. Je suis allé moi-même avec une peinture rouge et j'ai marqué là où se trouve la chapelle Adelaide et j'ai dit, le lundi, nous commençons à creuser. Si tu es ici, nous allons construire. Si tu n'es pas ici, c'est fini. Le lundi, j'étais là. Certains n'étaient pas là. J'ai trouvé qui sera avec moi et nous avons commencé à creuser. C'est ça l'église. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de choses ne sont pas faites dans le pays. Parce qu'on ne fait pas les choses comme ça. Moi, je crois dans la vitesse. Si tu ne crois pas dans la vitesse, je m'excuse beaucoup. Si tu ne bouges pas vite avec moi, je ne peux pas travailler avec toi. Si tu ne veux pas travailler vite, je ne peux pas travailler avec toi. Je vais me disconnecter de toi vite. Tu ne peux pas chercher la majorité, les gens qui ont peur, les gens, pour tout ce que tu vas faire avec Dieu. La sainteté, ceux qui fument, ceux qui ne fument pas, ceux qui boivent, ceux qui ne boivent pas. Je n'ai pas honte. Je ne suis pas honte de dire que je ne suis pas engagé dans certaines choses dans ma vie. Ce n'est pas mon problème. Si c'est ça ton problème, peut-être je fais partie de 1%. C'est ça que je fais. Je suis avec les enfants dans l'église. Tous mes membres sont des enfants, eux tous. Aussi long que tu peux voir, loin que tu peux voir, ce sont les garçons et les filles. Vous n'êtes pas des garçons et des filles. Peut-être ça semble drôle pour toi. Mais hier, je lisais le livre de Rick Joyner, chapitre 10, La Torche et l'Épée. C'était une prophétie. Il a rencontré un vieux ministre et il a dit au vieux ministre, la raison pour laquelle ton église est petite, c'est parce que tu n'as pas de jeunes hommes dans l'église. Tu n'as pas mis les jeunes dans leur position. Voici la raison pour laquelle ton église est petite. Si tu avais utilisé les jeunes, la congrégation n'allait pas être petite comme cela. C'est dans la vision. Si tu peux, tu peux lire. J'utilise les femmes et aussi les jeunes. Je n'ai point honte. Tu peux utiliser les amphibiens et les reptiles. Moi, j'utilise les enfants. Peut-être que tu n'es pas habitué à ça. Oui. 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 Donc, mes amis, pour suivre Dieu, Si tu regardes autour de toi pour regarder qui est avec moi. Qui encore? Qui d'autre? Et comme moi, tu ne peux jamais bien servir Dieu. Paul a dit, si je serais serviteur des hommes, je ne serais pas serviteur des hommes. Galates 1, 10. Il a dit, si je veux plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur du Christ. Tout le monde a un petit ami. Regarde ça, Galates 1, 10. Car maintenant, est-ce que je m'applique à satisfaire des hommes ou Dieu? Est-ce que je cherche à complaire à des hommes? Si je complaisais encore à des hommes, je ne serais pas esclave de Christ. Dès que tu rencontres un politicien, il faut savoir que ce politicien, son Dieu, c'est les politiques. Il ne va pas faire ce qui est droit, est raison. Parce qu'il va faire ce que le politique lui dit de faire. Son Dieu, c'est les politiques. C'est très étonnant. Ce que le politique lui dit de faire, c'est ça qu'il va faire. Pas nécessairement ce qui est droit. C'est très étonnant. Mais si je serai serviteur de Jésus-Christ, je ne peux pas plaire à tout le monde. Oh, 10 000 votez pour moi. 32 personnes votez pour moi. Ou bien de faire une chanson que tout le monde va aimer. Ah oui? Quand Aïda a commencé à chanter pour moi, il y a des années, ça fait plus de 15 ans. Quelqu'un a dit, mais ça c'est quelle chanson? Quiet time. Un jour, mon épouse me demandait, est-ce que tu penses que les gens aiment cette chanson-là? Tu penses que les gens aiment ces chansons? Soudainement, une force est entrée en moi et j'ai dit, soit les gens aiment ou pas, c'est ça qu'elle va chanter. Oui. Il ne s'agit pas de groupe. Oui. 1%. Oui. Un jour, certains gens sont venus chanter à l'église. Les gens ont acclamé pour eux. Les gens criaient. Ouais. Je ne veux pas vous donner le nom de groupe. Quand j'étais assis, je me suis dit, c'est la dernière fois que ces personnes vont chanter. Ils ne vont jamais venir ici. Ils ne vont jamais venir ici. Et ils ne sont plus jamais venir dans notre église. Oui. Vous voyez toutes ces belles chansons que Aïda chante. Je m'en fous si vous ne les connaissez pas ou bien vous ne croyez pas dans ces chansons. Si ça vous regarde. Voici ce que je veux. Oui. On va faire plus encore, beaucoup de chansons. Tu ne vas pas voir les chansons comme ça. Il faut aller chercher, voir. Oui. Au Napo. Un jour, un frère est venu me voir. Il dit, j'ai une bien-aimée. Et puis, la question suivante, c'était, est-ce qu'elle est belle ou elle n'est pas belle? Est-ce qu'elle est belle ou elle n'est pas belle? Vous voyez, certaines personnes, quand ils vont se marier, ils veulent demander l'avis de tout le monde pour savoir si les gens pensent. Vous voyez, certaines personnes, la joie qu'ils ont dans leur mariage, c'est de faire montrer les gens ouvertement en public. Ils sont là, ils s'assient ensemble, ils prennent des photos, font des choses. Ça, c'est le mariage idéal pour eux. Mais s'il y a de la nourriture à la maison, s'il y a de confusion à la maison, pour eux, ils ne regardent pas ça. Pour eux, ce qui le concerne, c'est que, OK, elle est belle, OK, les deux sont en train de porter les mêmes habits et puis ça marche. Waouh! C'est comme si tu te nourris des opinions des gens. C'est pourquoi quand je prêche, tu m'entends dire les choses comme « Oh, Nala est beautiful ». Ça veut dire que vous pensez qu'elle est belle. Vous voyez la sœur comme si elle est belle, mais elle n'est pas comme ça dans la vraie vie. Dans la vraie vie, il y a des gifles, des querelles. Et il ne se lave même pas. Il ne se brosse pas aussi les dents. Certains parmi vous, vous êtes venus à l'église, mais vous avez oublié de vous brosser les dents. Et vous les voyez marcher le chewing-gum dans l'église. Chaque personne que vous voyez marcher le chewing-gum dans l'église, ils n'ont pas brossé les dents. C'est pourquoi ils ne se sont pas brossé les dents. C'est pourquoi ils marchent le chewing-gum. Il faut voir si ton ami à côté de toi marche un chewing-gum. Dis-lui que dans cette église, on ne marche pas de chewing-gum. Il faut brosser tes dents. Qui va m'aider à arrêter les membres qui mâchent les chewing-gums? Dès que tu vois la personne, tu dis, hey, mon ami, il faut aller te brosser les dents et arrête ce que tu es en train de mâcher dans l'église. Maintenant, nous avons trouvé la révélation derrière la raison pour laquelle les gens mâchent les chewing-gums. Dieu les a exposés. Dis à quelqu'un, j'aimerais être comme Gideon. Je n'ai pas besoin de la majorité. Je n'ai pas besoin d'être renommé populaire. Je n'ai pas besoin de beaucoup de gens d'approuver. Je n'ai pas besoin de gens de choisir. Vous voyez, la majorité n'a pas toujours raison. Hein? La plupart du temps, la majorité a tort. Quand Moïse est sorti de la terre d'Égypte, combien l'avait soutenu? 12 espions. Qui était raison et qui était tort? La majorité avait tort, minorité avait raison. Tous les gens qui se sont plaints, qui sont morts dans le désert, ça c'est la majorité, ils étaient tous tort. Ils avaient tous tort. Donc la majorité souvent est très petite. Vous voyez, la majorité est en train de crier pour la crucifixion de Jésus. La majorité disait qu'il faut le crucifier. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Son sang sera sur notre tête. Crucifie-le. Vous voyez, vous allez comprendre la raison pour laquelle suivre Dieu ne s'agit pas d'avoir le support des gens, la masse. Vous criez, crucifiez-le, crucifiez-le. Et vous ne dites pas ça seulement, mais vous dites aussi que son sang soit sur nous et nos enfants. Et c'est pourquoi les Juifs ont souffert pendant les années. Si vous voulez savoir, vous pouvez lire mon livre sur, neutraliser la malédiction. On appelle ça déicide. La déicide. Ils ont tué Dieu par la majorité. Quand j'étais sur le point de commencer la campagne Jésus qui guérit, je me suis dit, même si les gens ne viennent pas, je serai là, je vais faire la campagne. Quand nous sommes allés à Kpassa, les habitants de Kpassa disaient que, ah, le blanc là, est-ce qu'il va venir ou pas? Et ils ont dit que je vais venir. Ils ont dit que personne ne vient ici. Donc ils ne sont pas sûrs si j'allais venir. Ils nous ont dit que je vais venir. Et je me suis dit, on va prendre notre temps pour arriver là-bas. Si ça va nous prendre combien d'années, on va arriver là-bas. Tu dois aller. Les gens ne doivent pas voir. Si vous voulez, même il ne faut pas donner. Peut-être vous ne savez pas que la campagne Jésus guérit, ce n'est pas à cause de ce que vous donnez. C'est quelque chose que Dieu m'a dit de faire et je ne sais pas comment, mais il dit qu'il va faire. Je remercie Dieu tout le temps pour ceux qui donnent. Mais si vous ne donnez même pas, ça sera fait. Il faut continuer de regarder. Dis à quelqu'un, je vais être un homme de foi comme Gideon. Numéro 2, je vais être un homme de foi comme Barak. Est-ce que vous connaissez des Barak? Le Barak dont je parle, c'est le Barak dans la parole de Dieu.
Juges 4,
verset 1. Juges 4, verset 1. Juges 4, verset 1. Et les fils d'Israël firent de nouveau ce qui est mauvais aux yeux de l'Éternel, et Éhoud était mort. L'Éternel les vendit en la main de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hazor. Le chef de son armée était Sisera, et celui-ci habitait à Harosheth des Nations. Et les fils d'Israël crièrent à l'Éternel, car Jabin avait 900 chars de fer. 900 chars. Il les opprimait fortement des fils d'Israël pendant 20 ans. Et Déborah, une prophétesse, femme de Lapidoth. Ça, c'est maintenant les femmes. Entre Ramah et Bethel dans... Mais d'une manière intéressante, je ne vois pas son nom dans le livre de Hébreux 11. Elle habitait sous le palmier de Déborah entre Ramah et Bethel et dans la montagne. Les enfants d'Israël venaient à elle pour être jugés et elle envoya et appela Barak, fils d'Abinaam, de Kedesh, de Nephtali, et lui dit, « L'Éternel, le Dieu d'Israël, ne l'a-t-il pas commandé? Va et rentre-toi sur le mont Tabor et prends avec toi 10 000 hommes des fils de Nephtali et des fils de Zabulon, et j'attirerai vers toi, vers son torrent de Kisson, Sisera, chef de l'armée. » Et Barak lui dit, « Si tu vas avec moi, j'irai, mais si tu ne veux pas avec moi, je n'irai pas. » Et elle dit, « J'irai bien avec toi, seulement ce ne sera pas à ton honneur dans le chemin où tu vas, car l'Éternel vendra Sisera à la main d'une femme. » Et Déborah se leva, s'en alla avec Barak à Kedesh. C'est très étonnant. Et Barak, numéro une, leçon par la foi, tu vas vaincre les ennemis supérieurs. Qui a rencontré des ennemis supérieurs avec 900 000 chars? Il ne faut pas essayer, à moins que tu aies la foi. Tout ennemi supérieur dans ta vie, je déclare que par ta foi, tu les vaincras au nom de Jésus. Numéro 2, par la foi, tu peux amener à une fin des situations qui durent pour longtemps. Qui ici a eu des situations qui durent pour longtemps? Vous êtes si jeune, mais vous avez des situations qui durent pour longtemps. Vous allez vaincre tous ces problèmes. Vous avez quel problème qui dure pour longtemps en tant que jeune? Et numéro 3, par la foi, vous allez chasser ceux qui vous tourmentent. En verset 15, la Bible dit, « Et Dieu, et l'Éternel mit en déroute Sisera et tous ses chars et toute l'armée par le tranchant de l'épée devant Barak, et Sisera descendu de son char et s'enfuit à pied. » Tu vas chasser tes ennemis pour sortir de la ville à partir d'aujourd'hui. Il faut bien regarder trois choses. Celui qui a écrit Hébreu dit, le temps le manque de parler de Gideon et Barak. Donc, je suis en train de vous parler de Gideon et Barak. Les ennemis forts vont se prosterner devant toi. Vous connaissez les ennemis forts que nous avons au Ghana? C'est financière, c'est un... Il y a un mot, c'est quel mot? Il faut finir ma phrase pour moi. Il ne faut pas me critiquer. Je dis c'est un quelque chose financier. Quoi? Dépression financière. C'est quoi? Des problèmes financiers. OK, problèmes financiers. Les problèmes financiers. Hey! Chaque fois, quand tu regardes à l'église, nous sommes en train de construire 2000 constructions. Où est-ce qu'on va avoir l'argent? Dieu m'a montré par la foi. J'ai la foi. Il faut regarder, voir. Nous serons en train de compter nos églises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 13, 21, 22, 23, 23, 26, 30, jusqu'à 2000. Au Ghana seulement, dans notre ville, quand nous serons vivants, nous allons voir tout ça là. Kalamasukata là, bas la foi. Toute puissance supérieure de une dépression financière que vous avez par la foi, vous allez vaincre cela. La foi est une chose si puissante, une force puissante. Je ne veux pas que vous jetez la foi. Il faut écouter les messages seulement. C'est comme quelque chose d'invisible qui vient, ça vient sur toi. Et tu commences à changer d'une manière silencieuse. Et tu commences à assumer une force. Et tu arrives à faire des choses qui semblent étranges aux gens. Il faut continuer d'écouter. Expose-toi. Il faut écouter des messages secrets. Et garde-toi à toi-même. Il ne faut pas même montrer ça aux gens. Ne montre pas aux gens ce que tu as trouvé. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité que vous allez arriver à faire des choses merveilleuses. Ils vont dire, comment est-ce qu'un homme peut faire cela? Il faut faire confiance à moi. Je dis la vérité. La foi est quelque chose de très puissant. Il dit, les Égyptiens ont essayé, mais ils n'ont pas pu. Parce qu'ils n'avaient pas de foi. Pas de l'argent, mais la foi. Quand nous étions à Collégon, notre église, toute l'église dans le monde entier, mise ensemble, l'argent que nous avons pu économiser, c'était $700. C'était $700. Vous pouvez demander l'évêque Steve Assaré. Lui, il était un comptable un comptable. Et j'ai dit, on va acheter cette salle de cinéma. Cette salle de cinéma. Je suis allé voir le propriétaire. J'ai dit, c'est combien? Il a dit 37 millions de CDs de Ghana. Et ça, c'était équivalent à $100,000 des États-Unis. Donc, j'ai négocié avec lui. Il a réduit ça à 35 millions de Ghana CDs. Et ça faisait exactement $100,000. Et tout ce que l'église pouvait avoir, c'était $700. La foi, vous savez, Dieu m'a donné une parole. J'ai entendu ça. Il m'a dit, si tu peux compter tes pièces, tu seras OK. Jusqu'à ce que sa parole est venue, tu commences à croire dans la parole. Il a dit, si tu peux compter tes pièces, tu peux construire. Nous avons tout fait. Un jour, nous avons fait un modèle. De la même manière qu'ils ont fait un modèle pour la cathédrale nationale. Donc, je sais combien ça coûte. De faire modèle, ce n'était pas facile et petit comme ça. On avait ça, on avait mis ça dans un verre. On a montré ça à l'église. Nous avons dit, voici l'église que nous allons construire à Collégon. Et tout ce que nous avions ce que nous avons économisé, c'était $700. Et nous avions seulement 700, et nous avions besoin de 100 000 $. Non, nous avons commencé à soulever du fond. Les gens ont donné. Je me souviens d'une certaine femme. Elle a donné, je pense, elle a donné 50 000 de quelque chose. Et quand elle s'est levée, j'ai entendu une voix qui dit qu'elle va se marier. Elle va se marier. Et après un moment donné, elle s'est mariée. Elle était plus âgée. J'ai eu une impression qu'elle allait se marier. Et puis quand il était le temps de prier sur les offrandes, notre estrade était un peu haut. Donc je me suis courbé. J'ai dit, prions. Dès que je me suis courbé, j'ai entendu une voix. Tu vas demander comment j'ai su que c'est la voix de Dieu. C'est par la foi. J'ai entendu la voix me dire, donne toutes les offrandes. Il faut tout donner. Il faut donner toutes les offrandes que tu as soulevées, qui est ici. Il faut tout donner au monsieur qui était venu pour prêcher. Et pour vous aider avec l'argent. Je me suis presque devenu la femme en Luc 13 qui était courbée pour 18 ans. Je n'arrive même pas à me redresser. Ah oui? Et puis, après le culte, j'ai pris l'argent. J'ai donné ça au monsieur et j'ai dit. Le monsieur a dit, non, jamais, jamais, c'est pour un projet. Et je lui ai dit, c'est ça le projet, c'est ça que je te donne, le projet. C'est ce que Dieu m'a dit de faire, je le ferai. Tu vois, on n'arrive pas à prospérer parce que nous n'obéissons pas à Dieu. Tout ce que nous avions économisé. On n'avait pas de branches, on n'avait rien. Tout ce qu'on avait dans le monde entier, c'était 700 dollars. C'était 720 dollars. Je ne vais pas vous mentir, 720 dollars. Par la puissance de Dieu, nous avons pu, petit à petit, avec des négociations. C'était des Libanais, je suis allé les voir. On a négocié, j'ai dit, s'il vous plaît, donne-nous un peu de temps. Nous avons payé, nous avons construit. Donc, si je vous dis que nous allons construire 2000 églises au Ghana ici, d'une manière pratique, je crois que vous ayez la foi afin de ne pas penser, avoir des mauvaises pensées. Et vous voyez, les gens ne savent pas la joie qu'on a quand on construit quelque chose pour Dieu. Quand tu construis pour lui, il va construire pour toi aussi. Oui. Par la foi, vous allez vaincre des ennemis supérieurs. Et aussi les ennemis qui ont duré pour longtemps. Les choses chroniques. Chronique est différente de quelque chose qui dure pour un court temps. Chronique, c'est quelque chose qui dure pour longtemps. Tu préférais avoir l'échec rénal un peu de temps que chronique, parce que chronique, ça dure longtemps. Aujourd'hui marque la fin de tous les problèmes chroniques au nom de Jésus-Christ. Je te vois chasser tes ennemis et tes ennemis sont en train de fuir au nom de Jésus-Christ. Oui, tu vas les fuir, ils vont rentrer dans la mer. Tout ce que te tourmente, je prophétise la fin de cette chose-là au nom de Jésus-Christ. Tu seras en train de danser sur la tête de l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Tu vas piétiner la tête de l'ennemi au nom de Jésus-Christ par la foi. Qui croit dans ces prophéties puissantes? Asseyez-vous. Nous sommes sur le point de finir. Hébreux 11, 32. Shalama, 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 shalama. Hébreux 11, 32. Il a dit, le temps. Voyez-moi aussi, le temps m'affecte maintenant. Il dit, Gédéon, Barak et Samson.
Judges chapter 16.
Juges 16, verset 17. Ha! C'est une histoire très triste. Mais on doit raconter.
Judges. Chapter 13.
Juges 13, 5.
At the end of this service, I want you to listen to Samson's faith. Some people feel, oh, as for Samson, the Italian is small.
À la fin, j'aimerais que vous regardez la foi de Samson. Ne dis pas que Samson, lui, il faisait les affaires des femmes. Donc, je ne sais pas quoi ce que je peux apprendre de lui. Juges 13, 5. Il dit, car voici, tu concevras et tu enfanteras un fils et le rasoir ne passera pas sur sa tête. Car le jeune garçon sera nazaréen de Dieu dès le ventre de sa mère. Il sucera et ça sera lui qui commencera à sauver Israël de la main du Philistin. Et Juges 16, il a pu garder le secret de sa force par la foi. Écoutez, la foi, c'est l'obéissance en quelque chose qui ne fait pas de sens. On lui a dit, ne coupe pas la tête, ne coupe pas les cheveux et tu seras fort. Comme je vous dis, le secret de votre foi, c'est d'écouter des messages. Quelqu'un qui imbibe les messages, tout le temps en train de vérifier, voir qu'est-ce que la Bible dit. La plupart d'entre vous, vous n'avez pas de bonne Bible. Donc, c'est difficile pour vous à savoir. Laissez-moi voir. Au livre n'est pas bon maintenant. Il y a d'autres qui sont plus que ça. Quand tu touches, tu flots. C'est pourquoi tu luttes. Il faut avoir des applis plus importants sur les portables ici, là. Quand tu écoutes le message sur ton portable et puis tu entends quelque chose et puis avec le mot portable, vous cherchez à trouver les versets bibliques. Moi, j'étais à l'école de médecine. J'écoutais Kenneth Hagin. C'était quelque chose que je faisais par loisir. Je vous donne le secret. C'est dans mon livre Attraper l'onction. De la même manière, ils ont dit à Samson de ne pas couper ses cheveux. Ils ont dit il faut faire un queue de cheveux. Oui, ils ont dit non, fais ça seulement, c'est fini. Tu seras puissant. Ça c'est ton secret. Tout le temps, il faut faire queue de cheveux. Vraiment, est-ce que c'est ça? C'est puissant? Oui, c'est très puissant, très très puissant. J'écoutais à Benin. Hey, ma shoot ala baba. Ma lumbre kazala mandere bobo shendele ma mandere katata. Le même secret. Dieu m'a dit, maintenant tu sais ce que tu dois faire. Non, il faut écouter. Il faut écouter seulement. J'étais sur le lit. Je me suis tenu. Et soudainement, je comprenais ce qu'il disait. Oui, soudainement, quelque chose a commencé à m'arriver. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai fait des miracles. Quand on m'introduisait à Pandai, l'homme qui m'avait introduit, il a dit, cet homme, je connais qu'il est un homme de Dieu parce qu'il y a 9 ans, il était venu ici pour prêcher et il y avait un fou qui était nu à Salaga. Tout le monde le connaissait. Et l'homme était guéri à la campagne. L'homme s'est vêtu correctement. Moi-même, je ne connaissais pas la personne. Et l'homme dit qu'il était guéri, il s'est vêtu correctement. Et cet homme a dit à la foule que l'homme fou qui était guéri est venu rester avec lui pour 1 mois. Il dit, il est venu rester avec moi, un homme qui était nu. Il était devenu correct. Il dit, et je l'ai amené chez lui au Bénin. Après avoir resté avec moi pour 1 mois. Des miracles. Vous verrez des plus grandes choses dans votre vie. Et je vous montre le secret. Comme Samson avait un secret qui ne ressemble pas à un secret. Parce que les secrets ne ressemblent pas aux secrets. Ça, c'est le secret des secrets. Les gens vont dire, est-ce que c'est ça? Chaque fois, j'ai été en Corée. Yonggicho vient prêcher sur la Corée. Il lit un verset, il ferme la Bible et puis il prêche de la prière. Et on se demande, est-ce que c'est ça le secret d'une église où il peut appeler les gens de venir rassembler au stade d'Olympique à 9h du matin lundi en Corée où on fait des Samsung, LG, Hyundai, Kia. Ça, c'est la capitale de toutes ces choses-là. La quatrième économie dans le monde entier. 9h du matin. Il appelle les membres de l'église à l'âge de 80 ans et les gens viennent remplir le stade 9h du matin. Est-ce que c'est ça le secret? Les secrets ne semblent pas aux secrets. Les secrets ne ressemblent pas aux secrets. Quand l'homme disait c'est mes cheveux, elle ne croyait pas. Quand la femme Delilah couchait avec lui dans le même lit, elle ne savait même pas que les cheveux qu'elle tenait dans ses mains étaient le secret. Les secrets ne ressemblent pas aux secrets, je vous dis la vérité. Les secrets ne ressemblent pas aux secrets. Quand la personne te dit que c'est un secret, tu ne vas pas croire. Sinon, il avait dit à la femme différentes choses, mais la femme ne croyait pas. Réellement, tes cheveux, ces cheveux saka-saka comme ça. Ce style de cheveux qui est bizarre comme ça, oui. Quand j'ai dit aux gens le secret d'être content dans leur mariage, ils ne croient pas. Quand tu dis, ils ne croient pas. Ils gâtent leur mariage. Quand tu jettes les couteaux aux gens, et tu dis, oh, je m'excuse beaucoup, je ne pensais pas à ça. Et puis tu jettes encore, tu dis, oh, je t'aime beaucoup. La personne va se demander, bien que tu dis à la personne que tu l'aimes, mais la personne n'est pas relaxe dans ta présence. Parce que la dernière fois, tu as dit, je t'aime, puis soudainement. Le temps que tu vas croire maintenant dans le secret, ça sera trop tard, parce que maintenant, vous avez trop souffert. Tout ce qui va rester, c'est l'amour d'agapé. Ils ont dit de t'aimer, donc alors, asseyons-nous. Il n'y a plus de sentiments. J'étais un bébé. Ouh. Je peux voir Delilah en train de faire glisser ses mains dans les cheveux de Samson. Mais il ne sait pas qu'elle est en train de jouer avec le secret, la source de la puissance de Samson. Entendre et voir. Psaume 62, 11, il dit, une fois Dieu a parlé, deux fois j'ai entendu. Je vous dis la vérité. Quand j'ai entendu la parole, à partir d'aujourd'hui, tu peux enseigner. Mais voici, je suis en train d'enseigner. Écoutez, aujourd'hui, si tu regardes mon itinéraire, j'ai trop de choses. Je dois maintenant couper des invitations pour pouvoir vivre. Trop. Oui. J'ai beaucoup d'endroits maintenant à aller enseigner et prêcher à cause de cette phrase, une seule phrase que j'ai entendue. Tu peux être quelque part, tu vas entendre une phrase. Si tu le fais, si je n'avais pas écrit des livres, imaginez cette église sans des livres. Sans des livres. Vous savez ce qu'il a dit en Apocalypse 11, il dit, il faut sceller et n'écrit pas. Donc si je n'avais pas écrit les livres, tous mes messages allaient être scellés. Il a dit, scellez et n'écris pas. Donc une fois que la chose n'est pas écrite, c'est scellé. Il dit, il faut sceller et ne l'écris pas. Une fois que tu n'écris pas quelque chose, la chose est scellée. Donc si je n'avais pas écrit, toutes ces choses allaient être scellées. Il dit, scellez les paroles de la prophétie, ne l'écris pas. Oui, 11. Il dit, il faut sceller, il ne faut pas parler et ne l'écris pas. Il ne faut pas écrire ceci parce que je scelle, c'est scellé. Donc l'obéissance est très importante, très importante. Tu dois suivre le secret. Donc Samson, il s'est raccroché à son secret. C'est Delilah qui a pu avoir le secret. Qui n'a pas de podcast? Je vous donne le podcast. Je vous donne le message sur l'internet. Oui. Amen. Oui. Apocalypse 10. Quand les sept tonnerres, il était sur le point d'écrire, il a dit, hey, il faut sceller, ne l'écris pas. Ne les écris pas. Tout message que je n'ai pas écrit, c'est scellé. Oui, c'est pourquoi j'écris. Il y a beaucoup de messages que j'ai prêchés, Tetelestai. Ce qui a été écrit. Oui. Donc le secret. J'étais avec l'évêque Oyedepo dans sa voiture. J'étais assis à côté de lui. Son pasteur était avec lui. Il a dit à son pasteur que déplace-toi. Et puis je me suis allé m'asseoir devant. Et je lui ai demandé son secret. Il dit, je t'entends parler de alliance. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il a dit, c'est Matthieu 6, 33. Chercher premièrement le royaume de Dieu. Il dit, c'est l'alliance. J'ai tracé avec Dieu de chercher premièrement son royaume. Ça, c'est mon secret. Quand on te dit le secret ne ressemble pas au secret. Donc, de Gideon, est-ce que vous devenez des hommes de foi? Hey! Ce que les Égyptiens ont essayé de faire, ils n'ont pas pu faire. Ils ont essayé, mais ça n'a pas pu. Mais de Gideon, nous voyons que la majorité, ça ne veut rien dire encore. De Barak, nous avons vu des ennemis supérieurs qui restent pour longtemps. Ils vont fléchir les genoux par la foi. Oui. Un jour, l'archevêque a dit quelque chose et ça m'a vraiment entré dans le cœur. Il a dit, Quand quelqu'un dit quelque chose de négatif, il dit, le fait que la personne a dit ça, c'est une pensée qui est venue à la personne. Et j'ai commencé à penser que les pensées ne sont pas des choses neutres, parce que la Bible dit de la parole de Dieu parle de comment faire descendre les imaginations. Donc quand tu entends certaines choses, tu dois les bloquer. Quand quelqu'un pense et dit que tu seras dans un cercueil, tu dois bloquer et lier cette... Le fait que cette idée même est venue à quelqu'un, c'est une pensée qui est en train d'aller... tu dois rejeter, tu dis que Dieu m'épargne, je rejette cette idée. Ne laisse pas les gens avoir des idées de toi. Par la foi, tu vas vaincre les ennemis. Et de Samson, nous voyons que le secret, c'est le secret. Tu seras en train de caresser le secret. Peut-être tu seras en train de tenir les messages. Tu seras en train de tenir ton portable plein de chargé des secrets, mais tu ne sauras pas que c'est ça le secret. Et que tu dois implémenter, mettre en pratique. Hébreux 11, 32. Nous avons commencé là-bas et nous allons terminer là-bas. Il dit, que dirais-je? Est-ce que vous êtes avec moi? Quelque chose ne va pas? Il dit, que dirais-je? Et que dirais-je? Car le temps me manquera si je discours de Gédéon, l'homme qui s'est tenu seul avec 1%. Barak, l'homme qui a poursuivi 900 000 chars sans avoir même des armes. C'est pourquoi nous allons vaincre les difficultés financières, éducation, les voleurs à main armée et toutes ces difficultés. Et Samson. Tant me manquera de parler de Samson. Hein? L'homme avec le secret. L'homme avec le secret, la force. Ah oui, la force surnaturelle. Aujourd'hui, toute force surnaturelle est révélée à toi. Tu vas marcher dans la grande force comme jamais auparavant au nom de Jésus-Christ. Restez debout, homme de foi. Prends la main de l'homme de foi à côté de toi et dis-lui, mon gars, je suis très content d'être avec toi, un homme de foi. Un homme de foi. Oui, un homme de foi. Je suis très content d'être avec un homme de foi, une femme de foi, un enfant de foi. Alléluia. Toutes les têtes baissées. Seigneur, merci pour tes bénédictions. Aujourd'hui, nous sommes reconnaissants pour ce que nous avons. Mettez vos mains sur votre cœur. Je vois l'esprit de foi venir en toi. Reçois l'esprit de foi. Il faut vaincre toutes les difficultés. Toutes les stress dans votre vie sont écrasés par l'esprit de la foi au nom de Jésus-Christ. Recevez la grâce de Gédéon. De marcher seul quand tu dois marcher seul. D'être 1% quand tu dois marcher. D'être la seule personne, la seule voix quand tu dois être la seule voix. Père, merci. Maintenant, reçois le secret de votre vie. Et il faut mettre ça comme un trésor, marcher par la foi et non par la vue. Seigneur, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce au nom de Jésus. Et alors que toutes les têtes sont baissées et toutes les yeux sont fermés, tu es ici, tu aimerais donner ta vie à Jésus. Tu veux dire, pasteur, prie pour moi, j'aimerais donner ma vie à Jésus-Christ. Prie pour moi. Si tu es là comme ça, aide-moi. Je veux Dieu, je veux Jésus. Je veux Jésus pour me sauver aujourd'hui. Si tu es là comme ça, levez les mains. Je vais prier pour toi. Tu veux que Dieu change ta vie. Tu as entendu les gens témoigner aujourd'hui et tu veux être changé et sauvé. Lève ta main et je vais prier pour toi. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est ton opportunité d'être changé. Si tu as élevé les mains, viens devant. Viens de n'importe où tu es. Viens te tenir ici. J'aimerais prier pour toi vite. Prions ensemble. Répète cette prière. Dis, Seigneur Jésus, s'il te plaît, pardonne-moi pour mes péchés. J'ouvre mon cœur. Je donne ma vie à toi. Je m'excuse. Je suis pécheur. Mais aujourd'hui, je donne mon cœur. Je donne ma vie. Je donne mon tout à Jésus-Christ. S'il te plaît, écris mon nom. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie. Merci de m'avoir sauvé. Merci de m'avoir changé aujourd'hui. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Que Dieu vous bénisse.
Nous croyons que vous avez été bénis par la prédication de la parole de Dieu. Pour les CD, DVD, livres et autres matériels de Dagi Wall Mills, visitez notre site internet au www.dagiwallmills.fr. Dieu vous bénisse richement.